Dernier jour pour le pèlerinage de Ténée. Après avoir marché et veillé le Saint-Sacrement hier, les pèlerins prendront part ce matin à la messe de clôture célébrée par l'archevêque de Nouméa. Et il n'y aura que 11 listes en lice dans 15 jours pour les élections provinciales. En province sud, Maria Isabella Saligan ne pourra finalement pas présenter sa liste. Explication dans ce journal. L'Iran et les États-Unis vont-ils signer un accord pour mettre fin à la guerre au Moyen-Orient ? Donald Trump affirme que oui, le régime des Mollahs ne veut rien signer pour le moment. L'affaire Liana, 24 heures après les obsèques de la fillette de 11 ans, Édouard Philippe affirme dans les colonnes du Parisien que l'indignation ne doit pas s'éteindre. Le sport, le football, troisième journée de compétition à la Coupe du Monde. En ce moment, le Qatar rencontre la Suisse. À la pause, les Suisses mènent 1-0. À suivre à partir de 9h, Brésil-Maroc. Et puis en Calédonie, la première réunion épique de la saison, c'était hier à la fois. Harry Potter de l'écurie Kauma s'est imposé sur la Foi classique, première grande course de la saison. Bonjour, bon week-end, soyez les bienvenus dans ce journal Actualité religieuse à la une de l'actualité ce matin avec bien sûr le pèlerinage de Ténée. La matinée d'hier a permis aux pèlerins de cheminer depuis le lycée professionnel Perguénaud jusqu'au site de Ténée. Les fidèles ont ensuite veillé le Saint-Sacrement tout au long de la nuit et c'est ce matin que sera célébrée la messe de clôture de ce pèlerinage à Bouraï. Reportage Kélinda Boiscou.
La jeunesse chrétienne de Calédonie, mais pas que, les pèlerins venant du sud au nord ont fait le déplacement hier. Ils étaient plusieurs centaines de personnes à marcher du lycée Perguénaud jusqu'au site de Ténée en chantant des cantiques. Pour le comité Marche pour Notre-Dame de Ténée, ce pèlerinage a permis de revoir des fidèles de paroisses qui n'ont plus participé à ce rassemblement. Bernard Oufangaléo, l'un des bénévoles du comité Marche pour Notre-Dame de Ténée.
Pèlerinage, on a été surpris parce qu'on s'attendait à ce qu'il y ait un peu plus de monde. En fin de compte, ce qui est arrivé, c'est que les paroisses se sont regroupées. Ils ont fait à chaque fois des grands groupes. Et au lieu d'avoir plusieurs groupes étirés dans la distance, on a eu des grands groupes, au moins 7 ou 8 groupes, 8 grands groupes, quoi. Des paroissiens, c'est surtout un que j'ai pu remarquer, qui m'a profondément touché, c'est celui de Lazareux. Ça fait longtemps qu'on les avait pas revus. Il y en a qui sont venus de Poya, il y en a qui sont venus de La Foi, des gens de Bouraï qui n'ont pas participé au rassemblement, mais des paroissiens, quoi, et qu'on n'avait pas l'habitude de voir. Quoi.
Après l'arrivée des pèlerins sur l'hippodrome de Bouraï, les jeunes se sont organisés pour la préparation de la grand-messe ce matin et la veillée qui a eu lieu en début de soirée hier, suivie de la procession et de l'adoration du Saint-Sacrement jusqu'à 5h ce matin. Une veillée qui a été rythmée par des danses et des chants.
On a assisté à la veillée, la Sainte Famille. Et ensuite, après, là, c'est la procession. Qu'est-ce qui m'a marqué dans la veillée? C'est franchement, les danses, c'était bien rythmé. Avec le texte, c'était bien. C'est bien coordonné entre le texte et les danses.
Et ça parlait de quoi?
De l'amour. Dans tout, dans la joie, dans la patience, dans le pardon. Et tout ça, ça regroupe, c'est l'amour. Et la procession, c'est le cœur à cœur avec Jésus.
Ce soir, j'ai assisté à quelque chose de très fort par rapport à la foi et l'espérance, justement à travers cette rencontre de la jeunesse. Et ce qui est frappant, c'est qu'on voit la foi, elle est vraiment vivante. Je vois que la jeunesse a soif de faire déjà cette démarche, de quitter chacun son quartier et de faire église, justement à travers l'église synodale locale diocésaine. Et c'est ce qui m'a beaucoup frappé, c'est ce cheminement de suivre le Saint-Sacrement.
La grand-messe sera célébrée à 9h ce matin par l'archevêque de Nouméa, Mgr Sione Pué. Du site de Ténée à Bouraï, Kélinda Boiscou, Radio Rythme Bleu.
Venons-en à l'actualité politique et on connaît désormais la donne définitive pour les élections provinciales du 28 juin prochain. Il y aura finalement 23 listes au total, dont 11 en province sud. Le tribunal administratif a en effet rejeté hier le recours déposé par la liste Alliance Pacifique Enracinée menée par Maria Isabella Salinga. Pour rappel, les services du Haut Commissariat n'avaient pas inscrit cette liste en raison de plusieurs irrégularités d'ordre administratif lors de l'audience hier. Maria Isabella Saguila a reconnu des erreurs dans la précipitation, selon elle, mais elle espère que chaque personne qui était impliquée avec elle pourra continuer à faire entendre sa voix.
C'était trop précipité, ces élections-là. Je suis d'accord sur les erreurs qui ont été faites. Mais sur le fond, tout de suite après, j'ai fourni la bonne liste. Nous, notre objectif à nous, c'est de mener notre combat qu'on a mené depuis des années. Notre combat, notre lutte, elle continue. Elle va continuer. Là, c'est nous les mamans qui se levons. Je voudrais remercier tous mes colistiers qui ont bien voulu s'inscrire sur notre liste. Nous, on sera là les mamans.
Et ce sont donc 23 listes qui ont été validées officiellement par les services du Haut Commissariat. 11 listes en province sud, 5 en province nord et 7 aux îles Loyauté. La préparation des élections provinciales et les différentes listes qui poursuivent la campagne. La liste Unie pour le pays conduite par Louis Mapou en province sud sera aujourd'hui à 10h sur la place des Cocotiers à Nouméa pour un café partage. La liste Nous Réunis menée par Philippe Dunoyer lance une opération Le Babicar à nous, un fourgon itinérant qui se déplacera dans les quartiers. Il sera aujourd'hui à partir de 15h attendu. C'est aujourd'hui la journée mondiale du don du sang. Elle sera relayée en Calédonie au foyer vietnamien Magenta. L'association des donneurs de sang bénévoles de Nouvelle-Calédonie réalisera le dessin d'une grande goutte de sang en se tenant par la main avec une photo aérienne. Lilian Mori est le président de l'association.
C'est la première édition qu'on refait depuis les 5 dernières années et on profite en fait de la journée mondiale du don du sang pour faire sur la Calédonie une goutte de sang humaine. On invite tous les Calédoniens à nous rejoindre à 8h le dimanche matin pour symboliquement voilà représenter une goutte de sang avec une prise de vue aérienne. Nous, notre objectif, il est de rassembler plus de 1500 personnes malgré le bulletin météo qui nous est pas forcément très favorable. Voilà, donc on invite tous les Calédoniens à nous rejoindre dès 8h au foyer vietnamien à Magenta. Il y a un dress code, oui, un t-shirt rouge. Donc des t-shirts rouges floqués aux dents du sang seront offerts aux 1000 premiers Calédoniens qui viendront. Et puis voilà, si les gens peuvent venir aussi avec un t-shirt rouge, ce sera parfait.
Et rendez-vous donc à partir de 8h au foyer vietnamien pour une matinée de solidarité qui sera rythmée par des animations avec des cadeaux. Et puis, à signaler, pour faire vos emplettes dominicales, le marché vide-grenier du Parc Fayard à Dimbéa, c'est de 7h30 à midi. Et puis à Farino, le traditionnel marché de mamie, marché spécial saveur de 8h à midi, c'est sur la place de la mairie. Il est 7h08, on va marquer une première pause dans ce journal. Dans un instant, l'actualité en métropole et dans le monde.
Accueil détendu, équipe dynamique, toujours un sourire au Bilboquet Plage.
En tête à tête ou avec des amis, toujours de la place au Bilboquet Plage.
De la simple salade au saumon fumé, toujours un grand choix au Bilboquet Plage.
Du soleil de midi aux 12 coups de minuit, toujours nous servons au Bilboquet Plage.
Au Palm Beach à Lanzvata, face aux îlots, Bilboquet Plage, un plus pour le week-end.
Prêt à vivre la Coupe du Monde sur grand écran? Jusqu'au vendredi 26 juin, jouez avec Canel et tentez de gagner une magnifique Smart TV d'une valeur de 169 900 francs. Tous les matchs de la Coupe du Monde en direct, en intégralité, en exclusivité sur Bein Sports, disponible sur Canel TV. Pour jouer, c'est facile, vous envoyez chance par SMS au 4020. Internet, télévision, téléphonie, Canel, c'est plus de 30 ans à vos côtés. N'attendez plus, envoyez chance au 4020 et tentez de gagner votre Smart TV. Canel, c'est bien plus qu'un fournisseur internet. Tirage au sort le vendredi 26 juin à 14h, 371 francs par SMS. Sur Radio Rythme Bleu, il n'y a pas de jour sans jeu.
RRB, pour être les premiers et les mieux informés.
La suite de votre journal Actualité en métropole et dans le monde avec Lionel Sabot.
Les États-Unis et l'Iran soufflent le chaud et le froid autour d'un possible accord de paix. Les deux pays semblaient hier soir, on en parlait dans le journal, plus proches que jamais d'un accord historique. Oui, mais voilà, Téhéran a refroidi brutalement tout le monde, excluant toute signature dans les prochaines 24 heures. Donald Trump, lui, persiste et signe en annonçant qu'un accord sera bien signé ce dimanche. Antoine Biavaud pour Europe 1.
La situation est un petit peu confuse car Donald Trump, vous le disiez, vient d'annoncer qu'un accord serait signé demain, mais rien n'est moins sûr car un petit peu plus tôt dans la journée, l'Iran assurait qu'aucun compromis ne pourrait être trouvé dans les prochaines 24 heures. Le pouvoir iranien évoque plutôt une date la semaine prochaine pour conclure cet éventuel accord dont les contours sont encore très flous. On sait néanmoins que les discussions portent principalement sur le détroit d'Ormuz avec la levée du blocus blocus américain en échange de la réouverture totale de ce passage stratégique par Téhéran. Donald Trump assure d'ailleurs à l'instant dans son message sur Truth Social que le détroit d'Ormuz serait rouvert dès la signature de l'accord. Très peu de détails en revanche concernant un éventuel démantèlement du programme nucléaire iranien posé par Washington comme condition préalable obligatoire à toute signature. Si cet accord devait voir le jour, américain et iranien semblent néanmoins s'accorder sur une signature électronique à distance. Donc, l'incertitude demeure alors que dans le ciel, les combats, eux, se poursuivent. Les États-Unis assurent avoir détruit cette nuit plusieurs drones qui tentaient de s'attaquer à des navires commerciaux dans le détroit d'Ormuz.
Antoine Bienveau du service international d'Europe 1. À l'international toujours, selon un haut responsable américain, Donald Trump et Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, devraient participer la semaine prochaine à la même réunion de travail au sommet du G7 qui se déroulera à Évian-les-Bains. Le président américain dînera le lendemain à Versailles avec Emmanuel Macron. J'ajoute qu'en marge de la préparation de ce G7, un gendarme qui devait participer à la sécurisation du sommet a trouvé la mort sur une route départementale en Haute-Savoie la nuit dernière. Un véhicule se serait déporté accidentellement sur la voie qu'il empruntait. L'actualité en métropole, la scène a été très largement relayée sur les réseaux sociaux ces dernières heures. À Ivry-sur-Seine, un élu Rassemblement National a récité un « Je vous salue Marie » en plein conseil municipal et a sorti un crucifix. Réaction de l'élu après le rejet d'un amendement qu'il venait de déposer. Amendement visant à interdire les signes religieux dans l'Assemblée. Deux élus y siègent voilés. Le maire communiste a saisi le préfet avec une question en toile de fond. Peut-on demander à des élus voilés de se découvrir au nom de la laïcité ? Métis Langue pour Europe 1.
C'est assez flou et c'est justement ce qui est à l'origine de l'agacement de Kevin Nader, l'élu RN qui a brandi ce crucifix lorsque son amendement a été rejeté.
Vous refusez la laïcité dans ce conseil municipal. Donc, on sera placé sous le signe de la croix à chaque conseil municipal dorénavant. Et que la croix vous bénisse tous, que Dieu vous bénisse. Et je vais dire un « Je vous salue Marie » d'ailleurs. « Je vous salue Marie, pleine de grâce ».
Une scène qualifiée de caricature par le maire communiste. « Je suis fier d'être élu avec mon voile », lance pour sa part Fenda Diarra, adjointe au maire d'Ivry, qui porte donc le voile en séance. Pourtant, les élus locaux sont bien soumis à une obligation légale de respect de la laïcité depuis une loi de 2025. Le problème, c'est que le droit ne dit pas explicitement qu'un conseiller municipal a interdiction de porter des signes religieux en assemblée. Ce sont donc aux conseils municipaux de décider d'inscrire ou non une disposition dans leur règlement intérieur, d'où l'amendement donc de cet élu du RN. Ces dernières années, la jurisprudence semble néanmoins aller dans le sens d'une interprétation plus rigide de la laïcité en conseil municipal. En mars dernier, le tribunal administratif de Dijon avait validé en référé un règlement intérieur prohibant les signes religieux ostensibles en séance à Chalon-sur-Saône.
Mathis Long pour Europe 1. L'affaire Liana, 24 heures après les obsèques de la fillette de 11 ans dans le Gers. L'indignation ne doit pas s'éteindre. Déclaration d'Édouard Philippe, l'ancien Premier ministre, dans les colonnes du Parisien. Le président d'Horizon, qui est candidat à la présidentielle, parle d'échec collectif dans cette affaire. Édouard Philippe qui apporte par ailleurs son soutien au ministre de la Justice, Gérald Darmanin. En bref, de nouvelles plaintes pour viol déposées à l'encontre de Patrick Bruel. L'une pour tentative de viol en 2007, l'autre pour viol en 2012. Rappelons que le chanteur a été mis en examen cette semaine dans 4 affaires similaires. Dans l'actualité également ce dimanche matin, le démantèlement à Pau d'un réseau de fabrication de pistolets. 4 hommes ont été mis en examen par le parquet de Toulouse après la découverte d'un atelier de production d'armes létales. Particularité de ce réseau, les armes étaient fabriquées au moyen d'imprimantes 3D. Christian Goblet est expert en balistique.
Les armes sont fabriquées avec des imprimantes. Naturellement, il faut le plan et le modèle de l'arme. Donc, les gens mal intentionnés vont afficher en fait un programme informatique sur le Darknet. À partir de ce moment-là, ils vont brancher ce logiciel sur une imprimante 3D qui va faire tout le travail comme pour fabriquer une pièce en plastique. Techniquement, c'est facile à faire. Maintenant, il faut se méfier parce qu'une imprimante 3D de mauvaise qualité va faire un pistolet de mauvaise qualité. Pour avoir un pistolet qui tient le coup à la longue et sur lequel on peut tirer plusieurs coups, il faut compter des imprimantes de 200 000 euros. euros à peu près. On peut tirer avec une imprimante 3D de qualité moyenne, on peut tuer, mais maintenant ce qu'il faut savoir c'est qu'il y a de forts risques d'explosion lorsque l'on va tirer. Il y a autant de risques en fait pour la personne en face que pour le tireur.
Christian Goblas, expert en balistique, invité d'Europe 1 Week-end. Vous l'avez peut-être déjà tous utilisé, nous parlons ici de l'intelligence artificielle, technologie qui fascine autant qu'elle inquiète. Il y a quelques jours, la société Anthropique qui a créé l'IA baptisée Claude a lancé un nouveau modèle baptisé Fable 5, modèle extrêmement puissant. Trois jours après son lancement, le modèle a été suspendu sur décision du gouvernement américain. Washington évoque un risque pour la sûreté nationale. Les performances de l'IA ne cessent d'augmenter, des performances qui posent question, tout comme la manière dont les utilisateurs s'en servent, notamment dans les entreprises où il y a désormais un véritable enjeu de cybersécurité. Aurélien Fleureau pour Europe 1.
Avant les progrès fulgurants de l'IA générative, les attaques malveillantes demandaient beaucoup de moyens, de talents et de temps. Mais cette époque est révolue, explique Charles Guillemet, directeur de la technologie de Ledger.
Ce qu'on essaie de faire, c'est faire en sorte que trouver une vulnérabilité et l'exploiter, ça coûte plus cher que ce qu'on pourrait en retirer en tant qu'attaquant. Et en fait, l'IA, ça change complètement cette dynamique, dans le sens où maintenant, trouver des vulnérabilités et les exploiter, ça coûte vraiment très très peu cher.
Renforcer la cybersécurité pour les particuliers, mais bien sûr aussi pour les entreprises, où l'usage de l'IA se fait parfois en cachette. Et c'est un risque sur lequel même Anthropique avertit. Ils viennent donc de sortir un nouveau modèle avec des restrictions d'utilisation. Mais ce n'est pas forcément suffisant, selon Anna Samoliatova, vice-présidente d'Illumine Technologies.
C'est les collaborateurs qui testent et qui voient que clairement, ça leur fait gagner énormément de temps. Et c'est là où il y a évidemment le risque énorme de contrôle de données confidentielles.
Et pour tous les acteurs comme OpenAI, Google ou Meta, le dilemme est de trouver le bon équilibre entre vouloir être le plus performant et ne pas ouvrir la boîte de Pandore.
Aurélien Fleureau pour Europe 1. Il est 7h17. On va marquer une dernière pause dans ce journal. Vous restez avec nous dans un instant. L'actualité sportive chargée ce matin, mais aussi la météo de votre dimanche.
Pour limiter les sources d'épidémie, purifiez l'air intérieur avec le spray pur essentiel assainissant aux 41 huiles essentielles 100% naturelles. 15 études scientifiques prouvent son efficacité et sa parfaite tolérance. À la maison, au travail, partout avec vous, faites confiance à la force 100% pure et unique du spray aérien pur essentiel assainissant pour éliminer virus et bactéries. En pharmacie et parapharmacie, pur essentiel, l'efficacité à l'état pur.
RRB, nos efforts valent bien un geste fort. Soutenez-nous, faites un don. Par chèque, virement ou en espèces aux 4 rues de Sébastopol. Toutes les infos sur rrb.nc ou sur la page Facebook. RRB, les fréquences aux couleurs de la France.
RRB, pour être au cœur de l'actualité.
La fin de votre journal, le sport avec Lionel Sabot.
Eh bien, on va commencer avec le football et bien évidemment la suite de la Coupe du Monde.
Les pages spéciales Coupe du Monde de football avec Azur Piscine et Outdoor. Un salon de jardin à l'ombre d'une pergola pour le coup d'envoi, une piscine pour se rafraîchir à la mi-temps et un canapé compressé confortable jusqu'au tir au but. Tout est chez Azur Piscine et Outdoor.
Le mondial qui est bel et bien lancé. On va faire un point sur les matchs avec aujourd'hui des rencontres pour le compte du groupe D, groupe B, C et D. Michael Juneski.
Et tout d'abord le Qatar qui fait face actuellement à la Suisse pour le compte du groupe B. La Suisse qui mène 1-0 à la mi-temps sur la pelouse de San Francisco. Les Suisses ont ouvert le score sur pénalty grâce à Mbolo, l'attaquant du Stade Rennais. Un groupe dans lequel, je le rappelle, le Canada et la Bosnie-Herzégovine ont fait match nul hier, 1-0. Une belle affiche au menu ce dimanche matin. Le Brésil qui retrouvera le Maroc à New York pour le compte cette fois du groupe C. Les Brésiliens, avec désormais Carlo Ancelotti à leur tête et le retour de la star Neymar à l'âge de 34 ans, retrouveront une sélection du Maroc qui avait créé la surprise au Mondial 2022 en se hissant jusqu'en demi-finale pour s'incliner face à l'équipe de France. Coup d'envoi de ce match Brésil-Maroc tout à l'heure à 9h. Ce sera la première grande rencontre à ne pas manquer dans cette Coupe du Monde. Dans cette même poule, notez qu'Haïti fera face à l'Écosse à partir de midi. Enfin, à 15h cet après-midi, la sélection australienne affrontera la Turquie. Ce sera pour le compte du groupe D.
Et pour l'équipe de France, Michael, l'entrée. entrée en lice, on le rappelle, ce sera mercredi matin face au Sénégal pour le compte du groupe I. Les Bleus sont basés à Boston pour préparer cette rencontre. Pour Manu Koné, milieu de terrain des tricolores qui jouera son premier mondial, l'important sera de décrocher une première victoire de référence.
Pour bien rentrer dans cette compétition, il faut gagner le premier match, quoi qu'il arrive. Après, par rapport au Sénégal, on sait que c'est une très très bonne équipe. Ils sont champions d'Afrique, donc on sait qu'on s'attend à un match compliqué. Mais voilà, on a confiance en nos qualités, on travaille sur nous-mêmes, on bosse à l'entraînement jour par jour et on va se tenir prêt pour le match.
Ouais, France-Sénégal, le premier match des Bleus, ce sera à suivre mercredi matin sur la pelouse de New York. Le coup d'envoi de la rencontre sera donné à 6h, heure de Nouméa.
Avec Azure Piscine, vos invités peuvent célébrer les buts en plongeant ou se rafraîchir à la mi-temps. Et pour l'ambiance, nos salons de jardin, pergola, barbecue et canapé transforment votre terrasse en loge présidentielle. Azure Piscine Outdoor, deux magasins, Magenta et Païta, 46 42 42.
Les fans de football s'amusent avec la Coupe du Monde. Les fans de rugby ne sont pas en reste avec les barrages d'accession aux demi-finales du championnat de France.
Vibrez au rythme du rugby avec Société Générale, partenaire majeur du Top 14. À vos côtés sur le terrain comme dans la vie.
Une première affiche aujourd'hui dans ces quarts de finale du Top 14, la section paloise qui reçoit le Racing 92.
Oui, premier barrage d'accession aux demi-finales, donc le Racing 92 sur le terrain de Pau. Et après la première période, dans un match au rythme soutenu, c'est la section paloise qui a pris l'avantage, 19 à 17 donc à l'entame de la deuxième période, alors que les Racing Men de Romain Taoufé-Fénois avaient ouvert le score dès la deuxième minute de jeu. Score donc très serré entre les deux formations. La seconde période qui est en cours. Demain, le deuxième barrage opposera le Stade français au Stade Rochelet. Les deux vainqueurs du week-end retrouveront Montpellier et le Stade toulousain dans le dernier carré.
Et le Racing qui, à l'instant, vient d'inscrire un essai qui mène 24 à 17 sur la pelouse de Pau avant la transformation de cet essai. En cyclisme, une avant-dernière étape mouvementée sur le Tour Auvergne-Rhône-Alpes, ex-Dauphiné. La victoire est revenue au Mexicain Isaac Del Toro, tandis que le jeune français Paul Sexès a limité la casse après une très lourde chute. Le tricolore a réussi à revenir à la 7e place. L'Australien Luke Tuckwell a conservé son maillot jaune à la veille de l'arrivée. Paul Sexès est 6e au général. On passe au sport mécanique. C'est parti pour les 24 heures du Mans Auto sur le légendaire tracé de la Sarthe, Mickaël.
Oui, le départ de la mythique épreuve d'endurance a été donné la nuit dernière à 1h du matin pour nous. Après 5 heures de course dans la catégorie hypercar, c'est la Cadillac V-Série numéro 38, pilotée notamment par un Français, le Manceau, le local de l'étape, Sébastien Bourdet, qui devançait donc la BMW hybride V8 numéro 20 et en troisième position la Toyota hybride numéro 8, voiture de l'écurie japonaise qui avait réussi à revenir aux avant-postes après des qualifications ratées. Les trois voitures se livrent un véritable mano à mano au fur et à mesure des tours et des arrêts ravitaillement. L'arrivée de cette 94e édition des 24 heures du Mans se fera à 1h du matin la nuit prochaine pour nous.
Je reviens au rugby et c'est transformé pour les Racing Men qui mènent 26-17 sur la section paloise. On revient au sport mécanique avec la Formule 1 et le Grand Prix d'Espagne.
Vos stations Shell et Pacific, partenaires des pages spéciales Grand Prix de Formule 1 sur Radio Rythme Bleu.
Et c'est encore une fois une Mercedes qui s'élancera en pole position sur le tracé de Barcelone, mais les Ferrari tentent de faire déjouer les plans des flèches d'argent, Mickaël.
Et oui, George Russell qui partira de la première place sur la grille de départ. Meilleur temps des qualifications. Seulement cette fois, il ne s'élancera pas aux côtés de son coéquipier Kimi Antonelli, le leader du championnat du monde, seulement troisième, mais aux côtés de Lewis Hamilton, l'ancienne star des flèches d'argent qui a placé une monoplace de la Scuderia en deuxième position lors de ses qualifs pour surfer en quelque sorte sur sa belle prestation à Monaco où il s'était classé deuxième. Malheureusement, comme à Monaco, Charles Leclerc, lui, a connu une nouvelle mésaventure dans sa chasse aux meilleurs chronos et aux Mercedes. Il a perdu le contrôle de sa Ferrari, a terminé dans le mur, pas de bobo, mais une nouvelle déception. Alors qu'il était encore troisième du classement après la Q1, il ne partira que de la 10e position.
Honnêtement, j'ai honte parce que ça fait 3 week-ends où je suis un peu dans le dur. Le feeling était clairement là depuis hier, mais j'ai pas concrétisé. Donc j'ai honte pour tous ceux qui nous soutiennent, pour le team qui a bossé comme des fous pour... qui ont bossé comme des fous pour amener des améliorations ce week-end. Donc voilà. Les points se marquent demain et c'est une course qui va être intéressante avec la dégradation des pneus. J'espère qu'on pourra remonter.
Et sur la grille de départ, derrière le duo Russell-Hamilton, on retrouvera sur la deuxième ligne la Mercedes, donc de Kimi Antonelli, pour la première fois de la saison hors de la première ligne, aux côtés de Lando Norris sur McLaren. Les Red Bull de Max Verstappen et Isaac Hadjar seront en embuscade aux 5e et 6e positions. Côté français encore, Pierre Gasly partira de la 14e place, Esteban Ocon de la 17e position. Un Grand Prix de Catalogne à suivre ce soir à partir de minuit pour nous.
C'était votre page spéciale Grand Prix de Formule 1, parrainée par Shell et Pacific. Shell, à nouveau partenaire innovation de la Scuderia 2026. Sélectionnez le meilleur pour votre véhicule.
Allez, venons-en au sport en Calédonie. C'était hier le coup d'envoi de la saison des courses hippiques. Premier rendez-vous de l'année sur l'hippodrome Banu à la fois.
Ouais, sur l'épreuve reine, à la fois classique, une distance de 1300 mètres. La victoire est revenue à Harry Potter, le cheval de Christian Kauma qui a devancé Billy of Rose de Nadir Boufnege et The Star de Steven Adam de Villiers qui complète le tiercé. Une belle journée, riche en enseignements, nous a dit le président de la Fédération des courses hippiques, Nicolas Schneider.
On a pu voir effectivement de beaux chevaux sur l'hippodrome, les socioprofessionnels effectivement impliqués avec toujours autant de passion et puis le public qui s'était déplacé. Tout ça, ça a fait un très bon cocktail et il y avait tous les ingrédients pour faire une belle journée de reprise pour cette saison hippique 2026. À la fois classique, c'était l'épreuve attendue puisqu'on retrouve beaucoup des protagonistes qu'on retrouvera forcément au départ de la Casino Coupe Clark du centenaire dans quelques mois. Une distance plus de vitesse, un 1300 mètres, alors c'est un sprint un peu plus long qui permet de regrouper des chevaux rapides et des chevaux plus de tenue. On a un cheval qui s'illustre à chaque fois dans ce type de conditions, un cheval passe-partout. C'est Harry Potter qui l'emporte cette année. Il avait échoué l'année dernière à la seconde place. Cette année, il prend sa revanche et remporte brillamment cette La Foy Classique 2026. Sur son dos, on retrouve Anthony Karamanolis qui cumule 4 victoires sur cette réunion d'ouverture où on a vu briller notamment l'écurie de Watom entraînée par Christian Kauma qui a resté effectivement 4 victoires sur les 6 courses proposées au programme de course en ville.
Et sur la dernière course de la journée, le prix SCHLF sur 1600 mètres, la victoire est revenue à Alpen Candy entraînée par Christophe Crenier devant River Berit de Christian Kauma et Secret Tales de Steve Adam de Villiers. La prochaine date pour les courses, ce sera le 27 juin à Boulou Paris.
Un coup d'œil à présent, Mickaël Auré, de l'actualité sportive avec un rendez-vous ce dimanche, la 15e édition du Trail des Cagoules.
Oui, 5 parcours proposés, une épreuve phare, le SFAC 47 km. Les participants qui se sont élancés au départ de la Ouameni à Boulou Paris ce matin pour cette 15e édition donc du Trail des Cagoules. Du football, les premiers résultats de la 11e journée de Super League, l'AS Locil a emporté sur le CA Saint-Louis de Buzyn. Gaïcha et Cougnier se sont quittés sur un nul à but partout. Magenta l'a emporté sur le Mont d'Or 4-0 pour reprendre la tête du classement. Enfin, Tiga l'a emporté sur Horizon Pasto, 3-2. Sur l'eau, je rappelle que le départ de l'épreuve de voile, la Corail 600, a finalement été reporté à mardi prochain, la première course hauturière au cœur du parc naturel de la mer de Corail n'a pas pu débuter ce samedi en raison des mauvaises conditions météo. En vrai aussi, le championnat de Calédonie V6 longue distance a été reporté à cause du mauvais temps. Les courses devaient se disputer hier au large de Lens-Vata. Enfin, un mot de basket, 3-3, la National League du Pacifique, moins de 23 ans, continue à la salle Omnisport de Lens-Vata. Aujourd'hui, c'est jour de repos pour les sélections. La compétition continue, on le rappelle, jusqu'au 17 juin. La Calédonie face aux Tonga, aux Fidji, aux îles Salomon pour tenter de décrocher une place en Coupe du Monde de basket 3-3. Hier soir, les Calédoniennes ont terminé deuxième. 2 victoires, 1 défaite au compteur. Derrière, les Tongiennes invaincues. Chez les messieurs, les Tongiennes aussi ont terminé en tête devant les Salomonais et les Fidjiens. La sélection des Tonga domine pour le moment la compétition, invaincue chez les garçons comme chez les filles. Il reste encore 3 journées de tournoi à la salle Omnisport de Lens-Vata.
Un page sport signé Mickaël Juneski. On termine ce journal avec la météo.
Socaport Peinture vous présente la météo. Socaport Peinture, de grandes marques adaptées à tous vos besoins. Tolin, Soiti, Lunicalo pour professionnels et particuliers et des milliers de teintes disponibles. Socaport Peinture, c'est à Ducos.
Et les couleurs du ciel, c'est avec vous Pierre.
Et oui, et côté météo pour ce dimanche, la matinée se déroulera sous un ciel souvent très nuageux à couvert. Des précipitations souvent modérées concerneront une partie du territoire. Elles pourront parfois devenir fortes ou prendre un caractère orageux, notamment sur la côte est. Le temps restera en revanche plus sec et plus lumineux sur la façade ouest. Le vent d'est à sud-est soufflera entre 15 et 20 nœuds sur le nord-ouest. Il sera plus soutenu ailleurs, entre 20 et 25 nœuds, avec des rafales de 35 à 40 nœuds. Sur la pointe nord, il pourra même atteindre 20 25 à 30 nœuds avec des rafales proches de 40 nœuds. Cet après-midi, les nuages commenceront à se morceler, notamment sur le nord et l'ouest. Quelques averses resteront toutefois possibles sur la pointe sud, la côte est et les îles Loyauté. Elles seront plus rares sur la côte ouest. Le vent d'est à sud-est se maintiendra entre 20 et 25 nœuds avec des rafales de 30 à 35 nœuds. Il pourra encore atteindre 25 à 30 nœuds avec des rafales à 40 nœuds par moment sur la côte est, les Loyauté et l'extrême sud. Les températures quant à elles de l'après-midi grimperont jusqu'à 26 degrés sur la côte ouest. En résumé, un dimanche contrasté sur le Caillou, plus humide et agité à l'est, plus lumineux à l'ouest avec un vent bien présent sur une grande partie du territoire.
Merci Pierre, c'est la fin de ce journal. Il est 7h30. Merci de nous avoir suivis.